Salut Daniel. Enfin depuis 7h53 heure de Paris, 5h53 GMT, 1h53 AM de New York City, nous savons quoi penser. À propos de l'affaire du DG du FMI, BHL nous a enfin dit quoi penser. Je ouvre les guillemets. Les gens feraient mieux de se taire. Vous vous foutez de ma gueule? Arrêtons de les lire. Nous avons été lamentables. Salut, à bientôt.
J'ai écouté hier le répondeur de là-bas et j'y suis. Je suis atterrée de voir à quel niveau les jugements des gens mettent un homme encore plus bas qu'il n'est. Il y a présomption d'innocence et moi je pense que c'est plutôt le responsable du FMI qu'on visait parce que pour moi il y a forcément une histoire là-dessous. Comme par hasard c'est un Américain qui le remplace. Je suis pas pour Strauss-Kahn, mais franchement là c'est dégueulasse. Merci.
Bonjour, j'avoue que j'étais un peu comme Claude, cet auditeur qui intervient souvent sur le répondeur de la Bachy. Quant à cette horde de sauvages qui, sans savoir les faits et gestes de qui que ce soit, jettent l'opprobre comme ça sur un homme et sa famille, merci la gauche, on n'est jamais trahi que par les siens. Eh bien, on aura encore 50 Farco. Merci beaucoup, les Altères et Tutti Quanti. Isabelle de Levallois, au revoir.
Oui, Martine, infirmière psy en Charente. Voilà, bonjour à tous. D'habitude, tous ces puissants me sapent le moral avec leurs discours faux et méprisants, délirants, paranoïaques. Mais là, aujourd'hui, mais je me marre comme une baleine en écoutant là-bas si j'y suis. Merci Daniel, merci Stéphane Guillon. Je crois bien que c'est toi qui as inventé cette histoire pour nous faire marrer, t'es très malin. En tant qu'infirmière psy, je me dis que peut-être que DSK va avoir une obligation de soins. Et je me dis que c'est dommage pour lui, parce qu'il n'y a plus d'infirmiers psy dans les hôpitaux pour le soigner. Allez, salut à tous, et merci de me faire rire.
Bonjour, si je pense appartenir au peuple de gauche, c'est que les valeurs qui l'animent ont un caractère universel, et ce que j'ai entendu sur le répondeur aujourd'hui m'a mise très mal à l'aise. Ce n'est pas parce qu'un homme représente tout ce que nous détestons qu'il est légitime de déverser sur son compte ces torrents d'ironie et de malveillance. Il faut juste attendre que la justice fasse son travail, et cela ne mérite aucun commentaire. J'écoute là-bas si j'y suis depuis toujours, et je la télécharge soigneusement pour ne pas en perdre une miette. Cet après-midi, il n'y a eu que le commentaire de Claude pour me réjouir. Du reste, Claude, c'est mon âme frère radiophonique. Ce qui l'amuse m'a amusé, ce qui l'émeut m'a ému, et ce qui l'écœure m'a justement écœuré. Merci Claude. C'était Nathalie des Deux-Sèvres.
Hier, on a eu droit à des rires gras et à des mines réjouies. À l'exception notable de Claude, ce que j'ai entendu sur cette antenne m'a beaucoup attristé, au contraire. Je ne fais pas partie de la famille politique de DSK, et je me demandais sérieusement si j'allais choisir entre DSK et Sarkozy en 2012, tellement je les trouve semblables. Je ne voudrais ni de l'un ni de l'autre pour gouverner mon pays. Mais DSK, actuellement, est un homme accusé et qui se dit innocent. Allons-nous faire de là-bas, si j'y suis, une annexe radio de ces hideux tabloïds américains qui condamnent sans se poser de questions? Notre pays est-il descendu si bas qu'on se rend en foule pour lyncher un homme sans se soucier s'il est coupable ou innocent? Et ici, sur cette radio, dans cette émission, une des dernières vraiment libres sur une antenne nationale, on n'hésite pas à le traîner dans la boue uniquement parce qu'il représente le FMI et le fric dans toute sa splendeur. Et je sens qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on aille juste un petit peu plus loin. Laissons à Marine Le Pen ses petits jeux nauséabonds. La seule question qu'on peut légitimement se poser, c'est « est-il coupable ?» Et aucun des auditeurs de là-bas, si j'y suis, n'en sait rien. Et si je déclenche des colibés et des ricanements en parlant de présomption d'innocence, ça voudrait dire malheureusement que certains considèrent que cette notion n'est pas valable pour tout le monde.
Bonjour, c'est Christine de M. Je voulais donner un bonjour à Monsieur Daniel Mermet, parce que ça fait des années qu'on l'écoute et on n'a jamais osé l'appeler. Alors on voulait le remercier pour ses émissions et l'encourager dans son engagement. On aimerait savoir s'il a eu l'occasion de rencontrer lors de son voyage au Japon une des dernières rescapées d'Hiroshima, Madame Ashizume Bun. Pour elle, il n'y a pas de différence entre une bombe atomique et une centrale nucléaire. Elle a 80 ans et ce n'est qu'à 65 ans qu'elle a pu mettre des mots sur sur le cauchemar qu'elle a vécu le 6 août 1945, dans un livre traduit en français par Pierre Régnier, « Le jour où le soleil s'est levé, j'avais 14 ans à Hiroshima ». Ce livre est paru aux éditions du Cénacle à Lille. Elle écrit aussi des poèmes en hommage aux disparus. Au revoir Daniel et merci.
Et merci, et merci. Et ben on va la rencontrer, figurez-vous, à Chizoumé Boun, pas plus tard que tout de suite, parce que nous l'avons rencontrée à Hiroshima. Effectivement, elle fait partie des Hibakusha, c'est-à-dire des survivants. Et elle est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle pas le quand le jour, quand le soleil s'est levé, mais le jour où le soleil est tombé, comme un souvenir de ce 6 août 1945, alors qu'elle était gamine, elle avait 14 ans, et que la bombe a explosé au-dessus d'Hiroshima. Aujourd'hui, on est à Hiroshima, vous avez compris, avec ces Hibakusha, avec ces survivants, pour évoquer cette ville d'aujourd'hui, aujourd'hui, et puis ce qui s'est passé là. Parce que ce qui s'est passé là est fondamental. Ça fait partie de ces événements dont qu'on croit connaître. On dit « Ah oui, 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 Hiroshima, Nagasaki. » Oui, mais quand on s'approche et qu'on passe un peu de temps et qu'on écoute, qu'on va au mémorial et qu'on rencontre des survivants, des témoins, des historiens, on s'aperçoit que c'est un moment fondamental de notre époque, pas seulement de la guerre froide, mais de notre époque, puisque c'est là que le droit de la force a supplanté la force du droit. Ce qui a été inauguré à Hiroshima, c'est désormais, ce sera la force et rien d'autre qui aura le dernier mot et qui a eu le premier mot dans cet instant de rupture. Vous allez voir comment et pourquoi qu'a été l'explosion de cette bombe. Rupture, on le verra à travers les textes écrits par des médecins, les témoignages des médecins qui ne savaient pas ce que c'était, ne savaient pas ce qu'étaient les mots, les maladies, les pathologies présentées par les survivants, les gens qu'ils avaient à soigner. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Et c'était quelque chose de nouveau dans les corps, et c'était quelque chose de nouveau dans les esprits et dans l'histoire de l'humanité aussi, ce qui s'est passé là, ce jour-là, à 8h15, le 6 août 1945. En France, on dit Hiroshima. Au Japon, on dit Hiroshima Nagasaki. On s'est demandé avec Guy, pourquoi est-ce qu'on dit seulement Hiroshima? Et la réponse, elle est peut-être dans le titre du film, Hiroshima, mon amour. On ne dit pas Hiroshima Nagasaki, mon amour, c'est seulement Hiroshima. C'est peut-être pour ça que nous avons séparé cette ville de l'autre, alors qu'à 3 jours près, ces deux villes ont subi, comme vous le savez bien, le même sort. Qui est responsable de ça? Quelles sont les conséquences sur le long terme, 66 années après? C'est ce qu'on va essayer de comprendre et de sentir jusqu'à 16 heures dans la base où j'y suis, Hiroshima.
Bonjour Monsieur Mermet, merci infiniment pour tout ce que vous faites. Voilà, je voulais simplement vous dire et dire aux auditeurs combien je suis outré par la manière avec laquelle, parfois, également sur France Inter, pas dans votre émission bien évidemment, on présente effectivement les affaires du Moyen-Orient. Là, en l'occurrence, depuis 2 jours, sur beaucoup d'antennes, et notamment donc sur France Inter, on parle de Narba en disant que la Narba, c'est une catastrophe du fait de la création d'Israël. Il y a une question de glissement sémantique, c'est extraordinaire et outrant. Je veux dire, la Narba est avant tout et prioritairement une question de spoliation de terre. C'est ça la grande catastrophe. Ce n'est pas le fait qu'il y a un État qui a été créé. La catastrophe, c'est véritablement d'avoir mis les Palestiniens à la mer, de les avoir mis à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Et on ne cesse de parler depuis depuis le 14 et le 15, du fait que la création de l'État d'Israël est une catastrophe pour les Palestiniens. Or, c'est pas du tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Bon, chers amis, il n'y a pas que des SK dans la vie. Le gasoil, c'est cher et ça pollue. La grande distribution se goinfre, l'agrobusiness me gave et m'empoisonne. Alors je vais à la MAP et privilégie les circuits courts. On en parle au repère de là-bas si j'y suis, au Baroque Café, ce jeudi 20 mai à 18h à Clermont-Ferrand.
Salut à tous. La Grèce a été violée une fois avec les Jeux Olympiques, violée une deuxième fois avec le premier plan de redressement qui a prévu des privatisations à tout va, et vient d'être violée hier une troisième fois par les décisions du FMI qui sont en train de raver le pays et de le dilapider, et de donner tout ce qui appartient aux hommes et aux femmes de cet endroit, et bien de tout donner au privé. Viol donc à répétition, qu'en disent tous les petits procureurs de tout poil, qu'en disent ces procureurs également de ce que font ou de ce qu'ont fait les États-Unis et toutes les puissances occidentales qui ont violé tous les pays du tiers-monde, tous les pays en voie de développement pendant des années. On vous attend, les procureurs.
Eh bien, qu'est-ce que j'apprends ce matin en lisant les journaux? Que les Américains ont trouvé la cachette de Ben Laden, une cassette vidéo montrant Dominique Strauss-Kahn nu, courant devant la gynéco de Carla Bruni. C'est fou, c'est fou. C'était Stéphane de l'Hérault.
Je me réveillais sous une lumière resplendissante. Le jour du 6 août, c'était le 10. Le ciel bleu d'août brillait sans un nuage. À une altitude extraordinaire, un bombardier B-29 apparut, étincelant comme l'argent. Il semblait voler très lentement en direction de Hiroshima. À cet instant, un éclair éblouissant me frappa à la face et me transperça les yeux. Une chaleur violente s'abattit sur mon visage et mes bras. En un instant, je me retrouvai au sol, le visage dans les mains, essayant instinctivement de fuir dehors. Je pensais y trouver des flammes, mais je ne vis que le ciel bleu entre mes doigts. Les feuilles ne bougeaient pas d'un pouce. Je regardais alors en direction de Hiroshima. Un grand cercle de feu flottait dans le ciel, un anneau gigantesque qui s'étendait au-dessus de la ville. Immédiatement, une masse de nuages blancs se forma au centre de l'anneau et se mit à grossir rapidement, se déployant toujours davantage dans le cercle incandescent. En même temps, un long nuage noir apparut qui recouvrit toute la surface de la cité, puis se répandit sur le versant de la colline, s'éleva au-dessus de la vallée de l'Ota, vers le village d'Esaka, submergeant tout, les bois, les bocages, les rizières, les maisons, les fermes. C'était un énorme cyclone soufflant la poussière et le sable de la ville. Soudainement, un frisson me parcourut le dos et une peur étrange m'envahit. Qu'est-ce que c'est? À quoi suis-je en train d'assister? J'avais devant les yeux un phénomène inconnu, un événement inédit, et toute l'expérience de mes 28 années d'existence ne m'était d'aucun secours. Extrait de Little Boy, récit des jours de Hiroshima, Dr. Shuntaro Hida.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, de Hiroshima à Fukushima, ce qui devait arriver arriva. Là, nous voilà au milieu d'Hiroshima. Tout le centre de la ville, là où nous sommes, c'est un grand espace de verdure avec des bâtiments qui sont réservés à la mémoire. Ici, c'est le musée d'Hiroshima. Là-bas, il y a bâtiments entiers qui sont réservés à la paix, à des salles de conférences pour la paix. Devant nous, il y a cette arche là, célèbre. Et dans le fond, il y a la seule chose qui reste d'Hiroshima, c'est le fameux dôme et un pan de ruine avec ce dôme qui est au-dessus. C'était le dôme de la chambre de commerce de l'époque. Ça a failli être détruit à un moment. La municipalité, les autorités avaient pensé que ce serait bien de tourner la page et d'oublier tout ça. Et là, c'est des jeunes, des scolaires en uniforme, des garçons uniforme bleu marine avec les boutons dorés devant et les filles avec le célébrissime costume des collégiennes japonaises avec le costume marin, la petite jupe bleu marine et les chaussettes et les mocassins noirs. Et ça, partout, le discours dominant, c'est moral. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on s'aime, il faudrait la paix, il faut de l'entente, tourner la page, plus jamais ça, etc. Et c'est uniquement sur un plan moral que les choses se passent, et pas du tout sur le plan politique, sur le plan des rapports de force. Or, Hiroshima, c'est vraiment le lieu du rapport de force. C'est là où les États-Unis d'Amérique ont fait la démonstration de leur force, de leur puissance, de leur superpuissance par l'arme nucléaire, par la première bombe atomique qui a été lancée sur des populations civiles pour dire « nous sommes les plus puissants, nous sommes les plus forts, voilà notre façon de faire la justice et voilà de quoi nous sommes capables ». Et c'était un message qui était adressé à l'époque à l'URSS, mais aussi à l'ensemble du monde et dont 200 000, 300 000 victimes civiles ont fait les frais. À exactement 8h15, le matin du 6 août 1945, heure locale, au moment où la bombe atomique explosa sur Hiroshima, Miss Toshiko Sasaki, employée au service du personnel de la East Asia Tin Works, venait juste de s'asseoir à son bureau en tournant la tête pour parler à sa collègue. C'est la première phrase d'Hiroshima de John Hersey, 1946. C'est pas un livre, c'est un reportage de John Richard Hersey, qui était un journaliste et qui a été le premier à faire un reportage sur Hiroshima. Son reportage, son récit sur l'impact et les conséquences de la bombe atomique qui a dévasté Hiroshima a été choisi comme le meilleur article du XXe siècle par un jury de 36 membres réunis par le département de journalisme de la New York University. C'est dire si, quand on arrive à Hiroshima en tant que journaliste, on est intimidé par tous ceux qui nous ont précédés et qui ont tenté de comprendre et de décrire ce qui s'est passé là et qui se passe toujours. Et qui se passe toujours parce que les survivants sont là, on va les rencontrer, les Ibakusha, qui portent dans leur corps, dans leurs mots, dans leur mémoire, ces 66 années de relégation et de stigmatisation. En effet, après Hiroshima, après que la bombe a explosé au-dessus d'Hiroshima, les survivants ont été considérés comme des pestiférés, comme s'ils avaient une maladie contagieuse, mais aussi parce qu'ils représentaient la défaite et le déclin de ce rêve complètement cinglé qui avait été celui du Japon impérial. Ils vivent encore, toujours aujourd'hui, vous allez les entendre, comme des parias dans cette ville, aujourd'hui une belle ville moderne, ou s'il n'y avait pas au milieu de la ville ce grand espace réservé au mémorandum, au mémorial. C'est une ville moderne, normale, où chacun va et vient, où on fabrique des automobiles Mazda, par exemple. Mais il y a ce mot, Hiroshima. Je le disais en commençant que les Japonais lient toujours à Nagasaki. Qu'est-ce qui s'est passé là ? La querelle, la controverse est dure depuis 66 ans. Qui est responsable ? Fallait-il faire ça ? Aujourd'hui, les défenseurs du bombardement, de l'explosion, sont de moins en moins nombreux. C'est l'autre thèse qui prévaut, celle du crime contre l'humanité. Il y a très probablement eu là un crime contre l'humanité qui s'est produit à Hiroshima comme à Nagasaki. C'est la question qu'on va se poser et qu'on va poser aussi. Suite à la défaite du Troisième Reich, plusieurs scientifiques qui travaillaient sur le projet ont eu le sentiment que les États-Unis ne devaient pas être les premiers à utiliser de telles armes. Albert Einstein était réticent face à la bombe. Et écoutez bien, Léo Szilard, qui était largement impliqué dans le développement de la bombe, a dit, après la guerre, « Si les Allemands avaient largué des bombes atomiques à notre place, nous aurions qualifié de crimes de guerre les bombardements atomiques sur des villes. Nous aurions condamné à mort les coupables allemands lors du procès de Nuremberg et nous les aurions pendus. » C'est avec ces mots très lourds et ces idées très lourdes aussi que nous arrivons à Hiroshima. Et on va découvrir peu à peu que, eh bien, il y a là comme un négationnisme, en tous les cas comme une histoire qui aurait été racontée par les vainqueurs et depuis 66 ans, uniquement par les vainqueurs à Hiroshima, là-bas, si j'y suis.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
Harry Truman, président des États-Unis.
A military base.
6 août 1945.
Le monde se souviendra que la première bombe atomique a été lancée sur Hiroshima, une base militaire.
We won the race of discovery against the Germans.
Nous avons gagné la course contre les Allemands pour cette découverte.
We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans.
Nous l'avons utilisé pour abréger les atrocités de la guerre et pour sauver les vies de milliers et de milliers de jeunes Américains.
We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
Nous continuerons à l'utiliser jusqu'à ce que nous ayons complètement détruit le potentiel guerrier du Japon.
Je m'appelle Bun Hashizume.
14 ans.
J'avais 14 ans à l'époque.
Il y a eu beaucoup de choses, mais...
Tous les Japonais avaient l'impression que la guerre était justifiée à l'époque. Donc l'éducation, les médias étaient orientés pour la guerre. Heureusement, en fait, mon père, il n'avait pas suivi cette idée, cette tendance au Japon. Donc on ne pouvait pas parler ouvertement de notre conviction, mais en tout cas dans la famille, on pouvait s'exprimer comme on souhaitait.
Mais ça, c'était une rareté à l'époque au Japon, non ? On a l'impression que tous les Japonais étaient derrière leur empereur, soumis à leur empereur.
Je pense qu'à l'époque, nous n'avions pas assez de liberté pour s'exprimer. Mais je pense quand même que nous étions nombreux à penser autrement.
Hashizume Bun, Madame Hashizume Bun, que nous rencontrons, est écrivaine, comme on voudra, et elle avait 14 ans à l'époque, ce jour-là, ce 6 août 1945. Elle était. Alors, les survivants vous disent rapidement, d'emblée, lorsqu'ils vous donnent leur témoignage, leur situation. À quelle distance ils étaient du point d'impact, de l'hypocentre, comme on dit, c'est-à-dire que la bombe a explosé à 600 mètres d'altitude. Et ils se situent toujours par rapport, ils disent, moi j'étais à 1 km, 1 km et demi, à 500 mètres, à 800 mètres, etc. C'est très important parce que le rayonnement, d'abord le flash, ensuite l'effet de souffle, l'effet de chaleur, a été évidemment différent selon la distance à laquelle on se situe. Mais ce qui est étonnant dans le témoignage de Madame Hashizume Bun, pardon, née donc en 1931, c'est qu'elle, déjà à l'époque, il y avait des gens qui considéraient qu'il y avait là un crime contre l'humanité, que ce n'était pas nécessaire, que ce n'était pas un mal pour un bien, que c'était pas quelque chose qui, ben voilà, c'était comme une sorte de punition ou un effet de la guerre. Le Japon était en guerre, les États-Unis étaient en guerre contre le Japon, et le Japon, ben, résiste et se défend, et puis voilà, c'est un fait de guerre. À l'époque, il se trouvait déjà des gens, et qui n'étaient pas des nationalistes ou des partisans frénétiques de l'empereur pour trouver qu'il y avait là quelque chose de condamnable, qu'on appelle un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, selon les notions de droit international qu'on peut avoir, et c'est son cas à elle.
J'étais étudiante à l'époque, mais je travaillais à la poste pour remplacer des adultes qui sont partis en guerre. J'étais à la fenêtre, à côté d'une grande fenêtre. J'ai vu un éclat incroyable. Et je me suis dit, ça ressemble à un soleil qui est tombé. Alors je me suis dit, le soleil est tombé. Et tout de suite après, j'ai perdu conscience. Quand j'ai repris conscience, je me suis rendu compte que j'étais propulsée contre une colonne qui se trouvait à l'intérieur de la salle. Il y avait un calme qui a duré un peu de temps et autour il faisait tout noir. Par rapport à une bombardement normal, je savais que c'était différent. Parce que la ville a disparu d'un seul coup. Et qu'on n'avait pas le temps de s'échapper. J'avais l'impression de rêver quand j'ai repris conscience. Parce que la ville qui était là le matin, alors était complètement disparue, rasée. Alors les hommes n'avaient plus l'apparence d'un être humain. C'est pour ça que je pensais que je rêvais. Imaginez, vous êtes en train de vivre le quotidien, comme vous êtes aujourd'hui, mais tout d'un coup, vous ouvrez vos yeux. Le monde a été bouleversé d'un seul coup. Vous pouvez imaginer.
Non, c'est difficile à imaginer. C'est très difficile à imaginer.
Je devais retourner à Hiroshima le plus vite possible. Je pris une bicyclette. Je ne croisais ni homme ni bête. J'étais rempli d'effroi. Mais j'étais médecin, officier de surcroît, et le sens du devoir me commandait. Seule cette vanité me faisait vaincre la peur et me poussait à aller de l'avant, à pédaler de toutes mes forces sur ma bicyclette. À mi-chemin de la ville, je dévalais la pente à toute vitesse quand une silhouette apparut dans le virage. Était-ce encore un être humain ? Il s'approcha de moi en vacillant. Il était nu, en sang, couvert de boue, le corps enflé. Des lambeaux de vêtements déchirés pendaient sur sa poitrine et autour de sa taille. Il tenait les mains devant son torse, la paume vers le bas. Des gouttes d'eau tombaient des bords de ses haillons. Mais quand il fut près de moi, je vis que les lambeaux de tissu n'étaient autres que sa peau et les gouttes d'eau du sang humain. Je ne pouvais distinguer si j'avais devant moi un homme ou une femme, un soldat ou un civil. La tête était singulièrement grosse, avec des paupières boursouflées et de grosses lèvres en saillie qui semblaient occuper la moitié du visage. Il n'y avait plus assez de cheveux sur le crâne brûlé. Je vis alors une procession d'autres silhouettes qui montaient lentement vers moi, le long de la route. Je n'avais ni médicaments ni instruments avec moi. Il m'était impossible de me frayer un chemin entre ces malheureux. J'ai sauté dans la rivière sans hésiter. Poussé par un vent violent, des nuages de fumée tourbillonnaient à la surface de l'eau. Le souffle brûlant me giflait le visage, la fumée me suffoquait. Je m'enfonçais dans une tempête de flammes. Le bleu du ciel d'été avait disparu. Autour de moi, sous le vent noir, la rivière était rougie par le reflet des flammes. Dès que la chaleur devenait intolérable, je plongeais mon visage dans l'eau en retenant ma respiration. Aussi loin que pouvait porter mon regard, toute la berge de Chōjūen était couverte de corps brûlés. Les cadavres flottant au fil de l'eau étaient encore plus nombreux. D'innombrables survivants se traînaient sur la rive, rampaient les uns sur les autres. Le pont suspendu était en flammes et dégageait d'immenses volutes noires. Pourtant, des hommes, des créatures de chair titubaient encore. Mais, à bout de force, beaucoup tombaient dans la rivière. Je restais figé sur place, incapable de faire un pas. Des ombres me dépassèrent, qui n'avaient plus visage humain ni voix. Des cadavres remontaient à la surface, d'autres restaient immergés dans les profondeurs, me heurtaient, tournoyaient sur eux-mêmes et flottaient vers l'aval. Chaque fois que je distinguais un petit enfant parmi eux, je levais les yeux vers le ciel en me mordant les lèvres pour dominer mon envie de pleurer. Au-dessus des tourbillons noirs, l'énorme nuage en forme de champignon brillait de ses cinq couleurs dans l'infini du ciel bleu.
Ça, c'est bouleversant quand même. Petite montre de rien du tout, qui a été donnée par Akito Kawagoe et qui est arrêtée sur 8h15. 8h15 pile poil. C'est l'heure à laquelle, le 6 août 1945, la bombe atomique a explosé au-dessus d'Hiroshima.
C'est l'ordre de mission numéro 13 en date du 2 août 1945 à 15h.
par la 20e Air Force américain basée à Guam. La liste des cibles sur le Japon pour le 6 août. Première cible pour le 509e groupe de la 313e L. La cible 90-30 Hiroshima. Coordonnées de la cible, c'est 06-30-96. Référence 21 Bombcom. Une fois que la bombe est larguée, faites un virage d'au moins 150 degrés et retournez sur la base. La deuxième cible, Kokura, l'arsenal et la ville. Coordonnées de la cible, 10-40-062. Troisième cible, Nagasaki, zone urbaine. Coordonnées de la cible, 10-40-51. À côté de la scierie Mitsubishi et la fabrique d'armes. C'est marrant de voir ce document là qui est recopié dans le musée. C'est juste les noms des signataires de cet ordre qui ont été barrés.
Actualité française.
Dans d'énormes usines isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares.
12 août 1945.
75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique. Après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. La possibilité enfin découverte de diviser l'atome au moyen d'un neutron permit la naissance de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. À près de 10 km, voilà ce qu'a enregistré la caméra. Une fumée lumineuse qui s'élève à 13 km de hauteur. À la même distance, mais d'un autre angle, voici ce que découvrait une autre caméra. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. Trois jours après, c'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Seuls quelques bâtisses paraissent oubliées sur ce champ de ruines. Tout est mort, disparu, volatilisé. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix?
À Hiroshima, on va retrouver Hachizume Boone, qui est une des survivantes. Mais il faut peut-être rappeler en quelques mots comment on en était arrivé là. Il faut rappeler que le Japon vivait en ermite, fermé sur lui-même, et dans la deuxième partie du 19e siècle, les États-Unis ont forcé le Japon, forcé à coups de canon, à s'ouvrir à l'Occident, à commercer et à échanger avec l'Occident. Et du coup, le Japon s'est développé, s'est transformé, est devenu une puissance avec des ambitions impérialistes, avec une guerre contre la Chine en 1895, une guerre contre la Russie en 1905, l'annexion de la Corée en 1910, de Taïwan, entre autres territoires, comme la Mandchourie, plus tard, en 1931, avec le massacre de Nankin, 200 000 civils exterminés. Et 1941, c'est Pearl Harbor, c'est le Japon qui attaque la flotte américaine et qui fait alliance avec l'Italie fasciste, avec l'Allemagne nazie et augmente encore la taille de son empire en occupant la Birmanie, la Thaïlande, Hong Kong, Singapour, l'Indonésie et jusqu'à l'Indochine française. Colonie française à l'époque. Alors le prétexte, c'est la décolonisation, mais le but réel, c'est augmenter l'accès aux matières premières, aux ressources, etc. Et l'occupation de tous ces pays a été, la colonisation de tous ces pays a été d'une barbarie totale, camps de concentration, torture organisée, massacres planifiés. Et donc, les États-Unis entrent en guerre contre le Japon. Tout ça aboutit à la bataille d'Okinawa. Vous vous souvenez, on avait évoqué cette bataille d'Okinawa l'an passé, et aboutit à une victoire des États-Unis. Mais les États-Unis et les Alliés exigent une reddition totale de l'empereur, qui refuse, et ce sera, et ce refus sera le prétexte au lancement de la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945, puis sur Nagasaki trois jours plus tard. Mais il faut bien rappeler que quelques auparavant, au printemps 1945, les États-Unis, l'armée américaine, enfin les bombardiers américains ont recouvert littéralement le Japon de bombes. Plus de 60 villes, 65 villes ont été mises à bas, mises à feu et à sang, et en visant évidemment les populations civiles. Donc Nagasaki et Hiroshima ne sont que l'aboutissement de cet écrasement du Japon. Et à Hiroshima, il y avait une jeune fille de 14 ans, Ashishi Bun.
全身にガラスの破片が突き刺さっていて、この右の耳の上の血管が切れたと思います。大量の出血でした。
Je saignais énormément parce que j'avais beaucoup d'éclats de verre qui étaient entrés sur mon corps et notamment qui a coupé mon oreille droite. Tout de suite après, mon collègue m'a amené à l'hôpital de Croix-Rouge qui était à côté du bureau. À l'hôpital, il y avait énormément de monde. Leur peau était cramée, calcinée. Certaines personnes avaient les yeux sortis, voire des intestins sortis de leur corps. Et ils essayaient de remettre en place, mais ils n'avaient pas cette force pour le faire. Et du coup, ils laissaient tomber les intestins dehors et ils marchaient. Ils n'avaient pas d'apparence d'un être humain.
En
fait, leur corps était gonflé, ils étaient rouges, noirs. Il était impossible de savoir leur âge ni leur sexe. Et en plus, l'hôpital était gravement endommagé, donc ils ne pouvaient pas prendre soin de ces gens-là. Ce soir-là, j'étais tellement affaiblie que je ne pouvais plus me déplacer. Donc, j'y restais dormir à Hiroshima, qui était en feu.
Et vos proches et vos amis, vous avez des nouvelles d'eux ?
J'avais aucune nouvelle de mes proches. Ma mère était au travail, mon frère était à l'école. Mon frère est mort, il avait 7 ans à l'époque. Mes parents étaient blessés, mais ils ont survécu quand même.
Aujourd'hui, 66 ans après aujourd'hui, pour vous, qui est responsable d'Hiroshima ?
Bien sûr, les Américains, ils sont responsables. Je pense que ce n'était pas du tout utile d'utiliser cette bombe pour terminer la guerre. Pour moi, en fait, les États-Unis avaient besoin de montrer sa puissance à l'entrée de la guerre froide. Et je pense aussi que ces bombardements étaient une expérimentation sur les êtres humains de l'effet d'uranium et du plutonium de Hiroshima et de Nagasaki.
ABCC って原爆が落ちた後で Les habitants
d'Hiroshima, ils sont suivis jusqu'à la génération de leurs enfants par l'Institut ABCC. C'est un institut de recherche sur les irradiés construit par les Américains à Hiroshima.
Vous leur faites confiance ?
Je ne fais pas confiance à cet institut parce que j'étais forcée d'aller à cet institut à Hiroshima à l'époque. Ils ont juste mené l'enquête, mais ils ne nous ont pas soignés. Nous étions des spécimens pour les États-Unis pour cette expérimentation sur le corps humain et pour pouvoir développer cette arme nucléaire et pour avoir cette puissance au monde après.
Près de moi, une jeune mère au visage brûlé portait son bébé sur le dos. Elle était en larmes et ne cessait de me supplier. Elle m'a répété sa prière tant de fois que je me souviens parfaitement de chaque détail. Sa maison avait été envahie par les flammes en l'espace d'une seconde. Alors, abandonnant ses trois enfants qui périrent dans l'incendie, elle s'était enfuie avec le plus jeune en le portant sur son dos. Ce bébé était tout ce qui lui restait. Il remplaçait ceux qu'elle venait de perdre. « s'il vous plaît, docteur, aidez mon bébé, s'il vous plaît », répétait-elle sans trêve. Le bébé devait avoir 1 ou 2 ans. Il était déjà mort. Je pris le bébé dans mes bras. Il n'y avait aucune trace de brûlure sur sa peau froide. « Tout va bien », dis-je à la mère. « Ne le réveillez pas cette nuit et dormez bien vous aussi, pour avoir beaucoup de lait demain matin ». La jeune mère joignit les mains et les tendit vers moi, puis elle partit, Dieu seul sait où, tenant son bébé mort sur sa poitrine en sang.
Sego Nishioka, monsieur Sego Nishioka. Et vous, vous dites que vous n'avez pas témoigné avant l'âge de 60 ans. Pourquoi ?
Vous savez, quand on a vécu une terreur, on n'a pas tellement envie de se souvenir et qu'on ne retrouve pas non plus de mots à mettre sur cette expérience.
Voilà, une autre rencontre, un autre survivant d'Hiroshima, Sego Nishioka, qui nous reçoit dans sa maison et qui apporte à son tour son témoignage d'Ibakusha, c'est-à-dire on peut dire comment, c'est synonyme de relégué, ça veut pas dire irradié, ça veut dire c'est cette catégorie, c'est pas le synonyme d'irradié, ça veut dire personne qui pourrait être irradié, c'est pas irradié, c'est qui peut être, c'est la possibilité d'être irradié. Mais en tous les cas, ça veut dire aujourd'hui des gens qui sont peut-être un peu moins relégués et marginalisés, mais qu'ils l'ont été tout au cours de leur vie, puisqu'ils ne pouvaient pas se marier, personne ne voulait épouser des gens comme ça, ni connaître, ni sortir avec ces gens-là. Donc il fallait cacher, il fallait dissimuler ce qu'on avait vécu, ce dont on avait été victime. Maintenant, on peut le dire. Et voilà les paroles de Sego Nishioka.
Ce matin-là, je devais aller travailler dans le centre. Quand je suis arrivé à l'école, j'ai entendu un avion. Et c'était bizarre parce que normalement l'alerte a été retirée. Et à ce moment-là, je vois dans le ciel une parachute blanc.
光ったわけです。
Je me suis dit, tiens, c'est étrange, il y a quelque chose qui tombe. Et deux secondes après, j'ai vu une lueur aveuglante.
ピカッと光ると、普通ものは光と影があって立体的に見えるんですが、
J'avais l'impression de voir un soleil qui tombait.
太陽が落ちたように、全部平面的に瞬間に見えたわけですね。
Cette lumière écrasait la perspective et tout était blanc.
続いて今度は爆風で20メートルか30メートルぐらい吹き飛ばされたんですね。
Là, j'étais projeté de 20 à 30 mètres à cause du souffle.
そして今度は目の前の木造の2階建ての大きな坑道がメリメリメリとこう倒れてきたわけですね。気絶しました。
Ensuite, j'ai perdu conscience. J'ai vu juste le bâtiment en face de moi en train de s'effondrer sur moi.
時間はどのぐらい経ったかわからないんだが、気がついたら真っ暗で、自分は生きてるのか死んでるのかわからんから、詰めったら痛かったわけですね。
Quand j'ai repris connaissance, il faisait tout noir et je me demandais si j'étais vivant. Donc j'ai pincé mon visage et j'avais mal.
Au fil des jours, les décès se firent de plus en plus nombreux. Beaucoup de ceux qui avaient échappé à la mort lors de l'explosion furent emportés par le mal mystérieux. Bien qu'on brûlât les cadavres jour et nuit, ils s'accumulaient si vite que nous devions les aligner sur les sentiers qui séparaient les rizières. 15 jours après le bombardement, je revis la jeune mère qui avait porté son bébé mort sur le dos. Elle semblait en voie de rétablissement et s'occupait des autres malades. Son visage était marqué par d'horribles cicatrices, mais j'étais heureux de constater qu'elle avait surmonté sa peine immense. Hélas, quelques jours plus tard, je fus très étonné d'apprendre qu'elle venait de mourir. Elle s'était mise à saigner de la bouche, du nez, et ses cheveux étaient tombés soudainement. Les premiers temps, nous avions été submergés par le nombre de rescapés qui avaient rejoint l'hôpital. Mais peu à peu, nous eûmes de moins en moins de malades à soigner. Certains trouvaient refuge dans leur famille, beaucoup d'autres disparus dans les fumées qui montaient dans le ciel des Saka.
Pour vous, qui est responsable ?
C'est une question très très délicate, complexe. Je pense que les États-Unis n'auraient pas utilisé la bombe si le Japon arrêtait la guerre plus tôt.
Mais au moment où les États-Unis ont fait exploser la bombe au-dessus d'Hiroshima, le Japon était défait.
Le Japon était dévasté, le Japon n'avait plus de force de continuer.
Donc ce n'était pas la peine d'envoyer la bombe sur Hiroshima. Celui qui allait devenir le président des États-Unis, Eisenhower, a dit que c'était inutile.
そこまでよくわからないですが、とにかく早く戦争を終わらしておけば。
Je n'ai pas d'idée précise là-dessus.
こんな惨めなことなかったという。
Mais je pense tout simplement que si le Japon avait arrêté la guerre plus tôt, on n'aurait pas eu ce misère.
アメリカは憎いですが、アメリカ人は憎くないです。
J'ai la haine contre l'Amérique, mais pas envers des peuples américains, mais contre le gouvernement américain.
Témoignage de survivants d'Hiroshima avec cette phrase d'Eisenhower, du général Eisenhower, le futur président des États-Unis, qui notait à la fin de sa vie dans ses mémoires, je cite, « Le Japon était déjà battu, le recours à la bombe était complètement inutile. » Et le général Curtis E. LeMay, qui commandait les raids aériens, c'est lui qui a commandé les raids aériens du 10 mars 1945 qui ont fait 100 000 morts dans une seule nuit, a dit ceci: nous avons intérêt à gagner car sinon nous serons accusés de crimes de guerre. Demain, on continuera d'évoquer Hiroshima. C'était un reportage avec Guy Van Til. Traduction Yuriko Nishinaka. Lecture extraite de Little Boy du docteur Shuntaro Ida. Toujours par Yuki Takahata, que nous retrouverons demain. Montage Marina Touillet et Agnès Le Bot. Merci à tous. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez et vous devez la réécouter aussi sur là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez faire des commentaires. À la technique aujourd'hui, David Federman et Michel Bézikian, c'est Koye Nguyen et Franck Adhérer qui ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Le Bot et Marina Touillet. Attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Oh, dis donc, t'as une petite mine.
C'est mon divorce. Déjà qu'entre mon ex-mari et mon ex-situation familiale, c'est compliqué. Alors avec une double déclaration de revenus à faire, je gère plus rien.
Pour ton ex-histoire d'amour, je sais pas, mais pour le reste, le plus simple, c'est encore Internet. Tu peux faire tes deux déclarations sans te déplacer.
Extra !
Mariage, PACS, divorce, décès d'un proche, changement de revenu, déclarez sur impots.gouv.fr, même lorsque votre situation a changé. La télédéclaration, pensez-y, ça vous simplifie la vie.
Excellent.
Ceci est un message du ministère chargé du budget.
Vendredi dernier, le jackpot Euromillions a été gagné. Ce mardi, il sera de 15 millions d'euros.
Montant à partager au rang 1, voire règlement.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Les infos, Delphine Simon. Salut.
Dominique Strauss-Kahn a donc passé sa première nuit au pénitencier de Rikers Island. Le directeur du FMI est visé par 7 chefs d'inculpation, notamment tentative de viol présumé sur une employée de l'hôtel Sofitel de New York. Il saura à la fin de la semaine s'il y a procès et s'il est ou pas libéré. En attendant, en France, Martine Aubry lance un nouvel appel à l'unité. La première secrétaire du Parti socialiste a présidé tout à l'heure un bureau national. À son arrivée, Ségolène Royal a parlé d'une épreuve collective très lourde. Nous ne savons pas encore si la victime est Dominique Strauss-Kahn ou la plaignante, déclare pour sa part le chef de file des députés socialistes Jean-Marc Ayrault. Des associations féministes se disent choquées par le traitement de cette affaire. Le mouvement Oser le féminisme affirme sur France Inter que l'on ne parle pas de ce qu'a pu ressentir la jeune femme qui a porté plainte. Cette association dénonce aussi le déferlement de blagues sexistes dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Cela montre, dit-elle, à quel point les violences faites aux femmes sont encore minorées dans l'imaginaire collectif. En France, il y a en prison plus de 64 500 détenus, un chiffre jamais atteint. Il a été franchi début mai, selon l'administration pénitentiaire. Quant à la surpopulation carcérale, elle reste très élevée, d'où une tension de plus en plus grande dans les établissements pénitentiaires. C'est ce qu'explique Céline Verzelletti, secrétaire générale de la CGT pénitentiaire.
C'est des conséquences d'une politique pénale qui est très orientée sur le tout carcéral, une politique pénale qui est orientée aussi sur le répressif et très peu finalement sur la prévention et sur les alternatives à l'incarcération. Ça a des conséquences. Bien évidemment, dans les prisons, une détérioration des conditions de détention. Et ça a pour effet aussi de multiplier les graves incidents, les agressions, les suicides, aussi une détérioration des conditions de travail des personnels pénitentiaires et avec, pour nous, personnel, une impossibilité de remplir correctement nos missions, qu'elles soient de sécurité ou de réinsertion. Je pense que la situation va s'aggraver de mois en mois à l'intérieur des prisons françaises.
Des propos recueillis par Sébastien Baer. La reine d'Angleterre est à Dublin, d'une visite historique, la première visite pour un monarque britannique depuis l'indépendance de l'Irlande en 1922. Une visite de 4 jours sous haute surveillance en raison des menaces d'attentats. Hier soir, une bombe artisanale a été découverte dans un bus à 25 km de Dublin. À midi, une centaine de personnes ont manifesté contre la visite de la reine d'Angleterre. Une visite qui est par ailleurs plutôt bien accueillie par 80% des Irlandais, à en croire un sondage récent. L'Iran lève l'interdiction de voyager du cinéaste Mohamed Rasoulof, dont le dernier film est présenté en ce moment au Festival de Cannes. Il avait été condamné à de la prison en même temps que le réalisateur Jafar Panahi, puis remis en liberté conditionnelle. Son avocat déclare qu'il n'est pas sûr que Mohamed Rasoulof vienne à Cannes cette année, car son film Au revoir a déjà été présenté. Pour terminer, les félicitations de Bernadette Chirac, l'ancienne première dame, salue l'annonce de la grossesse de Carla Bruni. Elle salue la première naissance à l'Élysée de la 5e République. C'est, dit-elle, un avenir pour la France. C'est le futur grand-père Paul Sarkozy qui a vendu la mèche ce matin dans un quotidien à très grand tirage, le quotidien allemand Bild.
Tous les jours, à partir de 11h,
l'absus du matin,
le fou
et du roi,
Stéphane Bern.
Oui, et vous n'avez pas envie de la connaître non plus.
Pour assister au prochain fou du roi, en direct du studio 106 avec Serge Moati et Arnaud Ramsay, rendez-vous demain mercredi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
C'est bien travaillé.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le fou du roi, tous les jours sur France Inter. À partir de 11h, France Inter, France Inter.
La différence.
Il est 16h04, c'est l'heure du Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Et bonjour Delphine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, le grand pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim, qui sera parmi nous bientôt, qui sera à la salle Pleyel samedi qui vient à 20h avec deux œuvres importantes, la 10e symphonie de Mahler, c'est un seul mouvement parce que Mahler n'a pas complété, et puis la 3e symphonie héroïque. Il doit être bien triste, Daniel Barenboim, devant les événements aux frontières d'Israël ces jours-ci, la tension qui monte de nouveau, lui qui se bat tout le temps, pacifiquement d'ailleurs, pour essayer de réconcilier les contraires et les voisins surtout, et avec son orchestre West Eastern Divan Orchestra, donc cet orchestre constitué à la fois d'Israéliens et d'Arabes, ils tentent d'ouvrir les consciences à plus de tolérance, mais enfin bon, ils seront, quoi qu'il en soit, je l'ai dit, samedi, et puis nous aurons des échos d'ailleurs de Daniel Barenboim, parce qu'il va nous donner quelques interviews, plusieurs intervenants de France Inter, et je vous propose d'entendre tout de suite cet orchestre constitué de jeunes artistes, avec un maître aguerri, lui, mais voilà, ça fait un très beau mariage justement, et c'est l'ouverture de la force du destin de Verdi que voici. Thank you.
Thank you.